Chapitre 5. Ces lettres ont paru très originales aux personnes à la bienveillance de qui la comédie humaine les doit. Mais leur admiration pour ce duel entre deux esprits croisant la plume, tandis que les plus sévères incognito tient un masque sur les visages, pourrait ne pas être partagée. Sur 100 spectateurs, 80 peut-être se lasseraient de cet assaut. Le respect dû dans tout pays du gouvernement constitutionnel à la majorité, ne fut-elle que pressentie, a conseillé de supprimer 11 lettres échangées entre Ernest et Modeste pendant le mois de septembre. Si quelques flatteuses majorités les réclament, espérons qu'elles donneront les moyens de les rétablir quelques jours-ci. Sollicité par un esprit aussi agressif que le cœur semblait adorable, les sentiments vraiment héroïques du pauvre secrétaire intime se donnèrent ample carrière dans ces lettres que l'imagination de chacun fera peut-être plus belle qu'elles ne le sont en devinant ce concert de deux âmes libres. Aussi Ernest ne vivait-il plus que par ses doux chiffons de papier, comme un avare ne vit plus que par ceux de la banque, et tandis qu'un amour profond succédait chez Modeste au plaisir d'agiter une vie glorieuse, d'en être malgré la distance le principe. Le cœur d'Ernest complétait la gloire de Canalis. Il faut souvent, hélas, deux hommes pour en faire un amant parfait, comme en littérature on ne compose un type qu'en employant des singularités de plusieurs caractères similaires. Combien d'une fois une femme n'a-t-elle pas dit dans un salon, ou pas près des causeries intimes, « Oh, celui-ci serait mon idéal pour l'âme !» Et je me sens aimer celui-là, qui n'est que le rêve des sens. » La dernière lettre écrite par Modeste, et que voici, permet d'apercevoir l'île des faisans où les méandres de cette correspondance conduisaient ces deux amants. À Monsieur de Canalis, soyez dimanche au Havre, entrez à l'église, faites-en le tour après la messe d'une heure, une ou deux fois, sortez sans rien dire à personne, sans faire aucune question à qui que ce soit, mais ayez une rose blanche à votre boutonnière. Puis retournez à Paris pour y trouver une réponse. Cette réponse ne sera pas ce que vous croyez, car je vous l'ai dit, l'avenir n'est pas encore à moi. Mais ne serais-je pas une vraie folle de vous dire oui sans vous avoir vu? Quand je vous aurai vu, je puis dire non sans vous blesser. Je suis sûr de rester inconnu. » Cette lettre était partie la veille du jour où la lutte inutile entre Modeste et Dumay venait d'avoir lieu. L'heureuse Modeste attendait donc avec une impatience maladive le dimanche où les yeux donneraient tort ou raison à l'esprit, au cœur, un des moments les plus solennels dans la vie d'une femme et que 3 mois d'un commerce d'âme à âme rendaient romanesque autant que le peut souhaiter la fille la plus exaltée. Tout le monde, excepté la mère, avait pris la torpeur de cette attente pour le calme de l'innocence. Quelque puissantes que soient et les lois de la famille et les cordes religieuses, il est des Julie d'Étanges, des Clarisse, des âmes remplies comme des coupes trop pleines et qui débordent sous une pression divine. Modeste n'était-elle pas sublime en déployant une sauvage énergie à comprimer son exubérante jeunesse en demeurant voilé. Disons-le, le souvenir de sa sœur était plus puissant que toutes les entraves sociales. Elle avait aimé de faire sa volonté pour ne manquer ni à son père ni à sa famille. Mais quel mouvement tumultueux et comment une mère ne les aurait-elle pas devinés? Le lendemain, Modeste et Madame Dumay conduisirent vers midi Madame Mignon au soleil sur le banc au milieu des fleurs. L'aveugle tourna sa figure blême et flétrie du côté de l'océan. Elle aspira l'odeur de la mer et prit la main à Modeste qui resta près d'elle. Au moment de questionner sa fille, la mère luttait entre le pardon et la remontrance car elle avait reconnu l'amour et Modeste lui paraissait comme au feu faux Canalis, une exception. Pourvu que ton père revienne à temps, s'il tarde encore, il ne trouvera plus que toi de tout ce qu'il aime. Aussi, Modeste, promets-moi de nouveau de ne jamais le quitter, dit-elle avec une câlinerie maternelle. Modeste porta les mains de sa mère à ses lèvres et les baisa doucement en répondant « Mais ai-je besoin de te le redire ?»« Ah, mon enfant, c'est que moi-même j'ai quitté mon père pour suivre mon mari. Mon père était seul cependant, il n'avait que moi d'enfant. Est-ce là ce que Dieu punit dans ma vie ? Non, ce que je te demande, c'est de te marier au goût de ton père, de lui conserver une place dans ton cœur, de ne pas le sacrifier à ton bonheur, de le garder au milieu de la famille. » Avant de perdre la vue, je lui ai écrit mes volontés. Il les exécutera. Je lui enjoins de retenir sa fortune en entier. Non, que j'aie une pensée de défiance contre toi, mais est-on jamais sûr d'un gendre ? Moi, ma fille, ai-je été raisonnable ? Un clin d'œil a décidé de ma vie. La beauté, cette enseigne si trompeuse, a dit vrai pour moi. Mais dût-il en être de même pour toi, pauvre enfant ? Jure-moi que si de même que ta mère, l'apparence t'entraînait, tu laisserais à ton père le soin de s'enquérir des mœurs, du cœur et de la vie antérieure de celui que tu aurais distingué, si par hasard tu distinguais un homme. Je ne me marierai jamais qu'avec le consentement de mon père, répondit Modeste. La mère garda le plus profond silence après avoir reçu cette réponse, et sa physionomie quasi morte annonçait qu'elle la méditait, à la manière des aveugles, en étudiant en elle-même l'accent que sa fille y avait mis. « C'est que vois-tu, mon enfant ?» dit enfin Madame Mignon après un long silence. « Si la faute de Caroline me fait mourir à petit feu, ton père ne suffirait pas à la tienne, je le connais, il se brûlerait la cervelle, il n'y aurait plus ni vie ni bonheur sur la terre pour lui. » Modeste fit quelques pas pour s'éloigner de sa mère et revint un moment après. « Et pourquoi m'as-tu quitté ?» demanda Madame Mignon. « Mais tu m'as fait pleurer, maman, » répondit Modeste. « Eh bien, mon petit ange, embrasse-moi. Tu n'aimes personne ici. Tu n'as pas d'attentif, » demanda-t-elle en la gardant sur ses genoux, cœur contre cœur. « Non, ma chère maman, » répondit la petite jésuite. « Mais peux-tu me le jurer ? Oh, certes !» s'écria Modeste. Madame Mignon ne dit plus rien, elle le doutait encore. « Enfin, si tu le choisissais à mari, ton père le saurait, » reprit-elle. « Mais je l'ai promis, et à ma sœur et à toi, ma mère. Mais quelle faute veux-tu que je commette en lisant à toute heure à mon doigt ? Pense à Bettina, pauvre sœur. » Au moment où sur ce mot « pauvre sœur » dit par Modeste, une trêve de silence s'était établie entre la fille et la mère, dont les deux yeux éteints laissèrent couler des larmes que ne put sécher Modeste, en se mettant aux genoux de Madame Mignon et lui disant « Pardon, pardon, maman !» L'excellente Dumais gravissait la côte d'Ingouville au pas accéléré, fait anormal dans la vie du caissier. Trois lettres avaient apporté la ruine, une lettre ramenait la fortune. Le matin même, Dumais recevait d'un capitaine venu des mers de la Chine la première nouvelle de son patron, de son seul ami. À Monsieur Anne Dumais, ancien caissier de la maison Mignon. « Mon cher Dumais, je suivrai de bien près, sauf les chances de la navigation, le navire par l'occasion duquel je t'écris. Je n'ai pas voulu quitter mon bâtiment auquel je suis habitué. Je t'avais dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle », mais au premier mot de cette lettre, tu seras joyeux, car ce mot, c'est « j'ai 7 millions au moins ». Je rapporte une grande partie en indigo, un tiers en bonne valeur sur Londres et Paris, un autre tiers en bel or. Ton envoi d'argent m'a fait atteindre au chiffre que je m'étais fixé. Je voulais 2 millions pour chacune de mes filles et l'aisance pour moi. Bien, j'ai fait le commerce de l'opium en gros pour des maisons de canton, toutes 10 fois plus riches que moi. Vous ne vous doutez pas en Europe de ce que sont les riches marchands chinois. J'allais de l'Asie mineure, où je me procurais l'opium à bas prix, à Canton, où je livrais mes quantités aux compagnies qui en font le commerce. Ma dernière expédition a eu lieu dans les îles de la Malaisie, où j'ai pu échanger le produit de l'opium contre mon indigo première qualité. Aussi peut-être aurais-je 500 à 600 000 francs de plus, car je ne compte mon indigo que ce qu'il me coûte. Je me suis toujours bien porté, pas la moindre maladie. Voilà ce que c'est que de travailler pour ses enfants. Dès la seconde année, j'ai pu avoir à moi le mignon, le joli brick de 700 tonneaux construit en bois de teck, doublé et chevillé en cuir et dont les emménagements ont été faits pour moi. C'est encore une valeur. La vie du marin, l'activité voulue pour mon commerce, mes travaux pour devenir une espèce de capitaine au long cours, m'ont entretenu dans un excellent état de santé. Te parler de tout ceci, n'est-ce pas te parler de mes deux filles et de ma chère femme? J'espère qu'en me sachant ruiné, le misérable qui m'a privé de ma bête Tina l'aura laissé et que la brebis égarée sera revenue au cottage. Ne faudra-t-il pas quelque chose de plus dans la dot de celle-là? Mes trois femmes et mon Dumais, tous quatre, vous avez été présents à ma pensée pendant ces 3 années. Tu es riche, Dumais. Ta part en dehors de ma fortune se monte à 560 000 francs que je t'envoie en un mandat qui ne sera payé qu'à toi-même par la maison Mongereau qu'on a prévenu de New York. Allez, encore quelques mots, hein, et je vous reviendrai tous, je l'espère, bien portant. Maintenant, mon cher Dumais, si je t'écris à toi seulement, c'est que je désire garder le secret sur ma fortune et que je veux te laisser le soin de préparer mes anges à la joie de mon retour. J'ai assez du commerce et je veux quitter le Havre. Le choix de mes gendres m'importe beaucoup. Mon intention est de racheter la terre et le château de la Bastille, de constituer un majorat de 100 000 francs de rente au moins, et de demander au roi la faveur de faire succéder l'un de mes gendres à mon nom et à mon titre. Or, tu sais, mon pauvre Dumais, le malheur que nous avons dû au fatal éclat que répand l'opulence. J'y ai perdu l'honneur d'une de mes filles. J'ai ramené à Java le plus malheureux des pères, un pauvre négociant hollandais riche de 9 millions, à qui ses deux filles furent enlevées par des misérables. Et nous avons pleuré comme des enfants ensemble, donc je ne veux pas que l'on connaisse ma fortune. Aussi n'est-ce pas au Havre que je débarquerai, mais à Marseille. Mon second est un Provençal, un ancien serviteur de ma famille, à qui j'ai fait faire une petite fortune. Castagnoul aura mes instructions pour racheter la Bastille, et je traiterai de l'indigo par l'entremise de la maison Mongenod. Je mettrai mes fours à la Banque de France, et je reviendrai vous trouver en ne me donnant qu'une fortune ostensible d'environ 1 million en marchandises. Mes filles seront censées avoir 200 000 francs. Choisir celui de mes gendres qui sera digne de succéder à mon nom, à mes armes, à mes titres et de vivre avec nous, sera ma grande affaire. Mais je les veux tous deux, comme toi et moi, éprouvés, fermes, loyaux, honnêtes gens absolument. Je n'ai pas douté de toi, mon vieux, un seul instant. J'ai pensé que ma bonne et excellente femme, la tienne et toi, vous avez tracé une haie infranchissable autour de ma fille, et que je pourrais mettre un baiser plein d'espérance sur le front pur de l'ange qui me reste. Bettina Caroline, si vous avez su sauver sa faute, aura de la fortune. Après avoir fait la guerre et le commerce, nous allons faire de l'agriculture, et tu seras notre intendant. Cela te va-t-il? Ainsi, mon vieil ami, te voilà le maître de ta conduite avec ma famille, de dire ou de taire mes succès. Je m'en fie à ta prudence. Tu auras ce que tu feras, jugeras convenable. En 4 ans, il peut être survenu tant de changements dans les caractères. Je te laisse être le juge, tant je crains la tendresse de ma femme pour ses filles. Adieu, mon vieux Dumais. Dis à mes filles et à ma famille que je n'ai jamais manqué de les embrasser de cœur tous les soirs, jour et matin. Le second mandat, également personnel, de 40 000 francs, est pour mes filles et ma femme, en attendant. Ton patron et ami, Charles Mignon. Ton père arrive, dit Madame Mignon à sa fille. À quoi vois-tu cela, maman ? Demanda Modeste. Mais il n'y a que cette nouvelle à nous apporter qui puisse faire courir Dumay. Modeste, plongée dans ses réflexions, n'avait vu ni entendu Dumay. Victoire ! S'écria le lieutenant de la porte. Madame, le colonel n'a jamais été malade et il revient. Il revient sur le Mignon, un beau bâtiment à lui, qui doit valoir, avec sa cargaison dont il me parle, 800 à 900 000 francs. Mais il vous recommande la plus profonde discrétion. Il a le cœur creusé bien avant par l'accident de notre chère petite défunte. Il y a fait la place d'une tombe, dit Madame Mignon. Il attribue ce malheur, ce qui me semble probable, à la cupidité que les grandes fortunes excitent chez les jeunes gens. Mon pauvre colonel croit retrouver la brebis égarée au milieu de nous. Soyons heureux entre nous, ne nous disons rien à personne, pas même à la Tournelle, si c'est possible. Mademoiselle, dit-il à l'oreille de Modeste, écrivez à monsieur votre père une lettre sur la perte que la famille a faite et sur les suites affreuses que cet événement a eues, afin de le préparer au terrible spectacle qu'il aura. Je me charge de lui faire tenir cette lettre avant son arrivée au Havre, car il est forcé de passer par Paris. Écrivez-lui longuement. Vous avez du temps à vous. J'emporterai la lettre lundi. Lundi, j'irai sans doute à Paris. Modeste eut peur que Canalis et Dumay ne se rencontrassent. Elle voulut monter pour écrire et remettre le rendez-vous. « Mademoiselle, dites-moi, reprit Dumay de la manière la plus humble, en barrant le passage à Modeste, que votre père retrouve sa fille sans autre sentiment au cœur que celui qu'elle avait à son départ, pour lui, pour madame votre mère. Je me suis juré à moi-même, à ma sœur et à ma mère, d'être la consolation, le bonheur et la gloire de mon père. Et ce sera, répliqua Modeste, en jetant un regard fier et dédaigneux à Dumay. Ne troublez pas la joie que j'ai de savoir bientôt mon père au milieu de nous par des soupçons injurieux. On ne peut pas empêcher le cœur d'une jeune fille de battre. Vous ne voulez pas que je sois une momie, dit-elle. Ma personne est à ma famille, mon cœur est à moi. Si j'aime, mon père et ma mère le sauront. Êtes-vous content, monsieur ? Merci, mademoiselle, répondit Dumay, vous m'avez rendu à la vie. Mais vous auriez toujours bien pu me dire, Dumay, même en me donnant un soufflet. Jure-moi, dit la mère, que tu n'as échangé ni parole ni regard avec aucun jeune homme. Je ne puis le jurer, ma mère, dit Modeste en souriant, et regardant Dumay, qui l'examinait, souriait comme une jeune fille qui fait une malice. Elle serait donc bien fausse, s'écria Dumay, quand Modeste rentra dans la maison. « Oh, ma fille Modeste peut avoir des défauts, répondit la mère, mais elle est incapable de mentir. » « Eh bien, soyons tranquilles, reprit le lieutenant, et pensons que le malheur a soldé son compte avec nous. »« Dieu le veuille, répliqua Madame Mignon. Vous le verrez, Dumay, moi je ne pourrai que l'entendre. Il y a bien de la mélancolie dans mon bonheur. » En ce moment, Modeste, quoique heureuse du retour de son père, était affligée comme Perrette en voyant ses œufs cassés. Elle avait espéré plus de fortune que n'en annonçait Dumay. Devenue ambitieuse pour son poète, elle souhaitait au moins la moitié de 6 millions dont elle avait parlé dans sa seconde lettre. En proie à sa double joie et contrariée par le petit chagrin que lui causait sa pauvreté relative, elle se mit à son piano, se confiant de tant de jeunes filles qui lui disent leur colère, leurs désirs, les exprimant par des nuances de leur jeu. Dumay causait avec sa femme en se promenant sous les fenêtres. Il lui confiait le secret de leur fortune et l'interrogeait sur ses désirs, sur ses souhaits, sur ses intentions. Madame Dumay n'avait, comme son mari, d'autre famille que la famille Mignon. Les deux époux décidèrent de vivre en Provence si le comte de la Bastille allait en Provence et de léguer leur fortune à celui des enfants de Modeste qui en auraient besoin. « Écoutez, Modeste, leur dit Madame Mignon, il n'y a qu'une fille amoureuse qui puisse composer de pareilles mélodies sans connaître la musique. » Les maisons peuvent brûler, les fortunes sombrer, les pères revenir de leur voyage, les empires crouler, le choléra ravager la cité. L'amour d'une jeune fille poursuit son vol, comme la nature sa marche, comme cet effroyable acide que la chimie a découvert et qui peut trouer le globe si rien ne l'absorbe au centre. Et voici la romance que sa situation avait inspirée à Modeste sur l'estance qu'il faut citer, quoiqu'elle soit imprimée au deuxième volume de l'édition dont parlait Doria, car pour y adapter sa musique, la jeune artiste en avait brisé les césures par quelques modifications qui pourraient étonner des admirateurs de la correction souvent trop savante de ce poète. Chant d'une jeune fille. Mon cœur, lève-toi. Déjà l'alouette, secoue en chantant son aile au soleil. Ne dors plus, mon cœur, car la violette élève à Dieu l'encens de son réveil. Chaque fleur vivante est bien reposée, ouvrant tour à tour les yeux pour se voir, a dans son calice un peu de rosée, perte d'un jour qui lui sert de miroir. On sent dans l'air pur que l'ange des roses a passé la nuit à bénir les fleurs. On voit que pour lui toutes sont écloses, il vient d'en haut raviver leurs couleurs. Ainsi lève-toi, puisque l'alouette secoue en chantant son aile au soleil. Rien ne dort plus, mon cœur, la violette élève à Dieu l'encens de son réveil. Et voici, puisque les progrès de la typographie la permettent, la musique de Modeste, à laquelle une expression délicieuse communiquait ce charme admiré dans les grands chanteurs, et qu'aucune typographie fût-elle hiéroglyphique ou phonétique, ne pourra jamais rendre. C'est joli, dit Madame Dumay, Modeste est musicienne, voilà tout. Mais là le diable au corps, s'écria le caissier, à qui le soupçon de sa mère entra dans le cœur et donna le frisson. Mais elle aime, répéta Madame Mignon. En réunissant par le témoignage irrécusable de cette mélodie à faire partager sa certitude sur l'amour caché de Modeste, Madame Mignon troubla la joie que le retour et les succès de son patron causaient au caissier. Le pauvre Breton descendit au Havre, y reprendre sa besogne chez Guggenheim, puis avant de revenir dîner, il passa chez les Latournelle, y exprimer ses craintes et leur demander de nouveau aide et secours. « Oui, mon cher ami, dit Dumay sur le pas de la porte en quittant le notaire, je suis du même avis que madame. Elle aime, c'est sûr, et le diable, elle, c'est le reste. » Me voilà déshonoré. Ne vous désolez pas, Dumay, répondit le petit notaire. Nous serons bien, nous tous, aussi forts que cette petite personne. Et dans un temps donné, toute fille amoureuse commet une imprudence qui la trahit. Mais nous en causerons ce soir. Ainsi, tous les personnages dévoués à la famille Mignon furent en proie aux mêmes inquiétudes qui les poignaient la veille et avant l'expérience que le vieux soldat avait cru être décisive. L'inutilité de tant d'efforts piqua si bien la conscience de Dumay qu'il ne voulut pas aller chercher sa fortune à Paris avant d'avoir deviné le mot de cette énigme. Ses cœurs, qui, pour les sentiments, étaient bien plus précieux que les intérêts, concevaient tous en ce moment que, sans la parfaite innocence de sa fille, le colonel pouvait mourir de chagrin en trouvant Bettina morte et sa femme aveugle. Le désespoir du pauvre Dumay fut une telle impression sur les Latournelle qu'ils en oublièrent le départ d'Exupère que, dans la matinée, ils avaient embarqué pour Paris. Pendant les moments du dîner, où ils furent tous les trois seuls, monsieur et madame Latournelle et Boutcha retournèrent les termes de ce problème sous toutes ses faces, en parcourant toutes les suppositions possibles. Et si Modeste aimait quelqu'un du Havre, elle aurait tremblé hier, dit madame Latournelle. Son amant est donc ailleurs. Elle a juré, dit le notaire, ce matin à sa mère et devant Dieu, qu'elle n'avait échangé ni regard ni parole avec âme qui vive. Ah ben, elle aimerait donc à ma manière, dit Boutcha. Mais comment donc aimes-tu, mon pauvre garçon? Demanda madame Latournelle. Madame, répondit le petit bossu, j'aime à moi tout seul à distance, à peu près comme d'ici aux étoiles. Et comment fais-tu, grosse bête ? Dit madame Latournelle en souriant. Ah, madame, répondit Bouchard, ce que vous croyez une bosse est l'étui de mes ailes. Ah, voilà donc l'explication de ton cachet, s'écria le notaire. Le cachet du clerc était une étoile sous laquelle se lisaient ces mots. Fulgens sequar, brillante, je te suivrai. La devise de la maison de Châtillon-Est. Une belle créature peut avoir autant de défiance que la plus laide, dit Bouchard, comme s'il se parlait à lui-même. Modeste est assez spirituelle pour avoir tremblé de n'être aimée que pour sa beauté. Les bossus sont des créations merveilleuses, entièrement dues d'ailleurs à la société, car dans le plan de la nature, les êtres faibles ou malvenus doivent périr. La courbure ou la torsion de la colonne vertébrale produit chez ces hommes, en apparence disgraciés, comme un regard où les fluides nerveux s'amassent en de plus grandes quantités que chez les autres, et dans le centre même où ils s'élaborent, où ils agissent, d'où ils s'élancent, ainsi qu'une lumière pour vivifier notre intérieur, il en résulte des forces, quelquefois retrouvées par le magnétisme, mais qui le plus souvent se perdent à travers les espaces du monde spirituel. Cherchez un bossu qui ne soit pas doué de quelques facultés supérieures, soit d'une gaieté spirituelle, soit d'une méchanceté complète, soit d'une bonté sublime. Comme des instruments que la main de l'art ne réveillera jamais, ces êtres, privilégiés sans le savoir, vivent en eux-mêmes comme vivait Bouchard quand ils n'ont pas usé leurs forces, si magnifiquement concentrées dans la lutte qu'ils ont soutenue à l'encontre des obstacles pour rester vivants. Ainsi s'expliquent ces superstitions, ces traditions populaires auxquelles on doit les gnomes, les nains effrayants, les féliformes, toute cette race de bouteilles, a dit Rabelais, contenant élixirs et baumes rares. Donc Bouchard devina presque Modeste. Et dans sa curiosité d'amant sans espoir, de serviteur toujours prêt à mourir, comme ces soldats qui, seuls et abandonnés, criaient dans les neiges de la Russie « Vive l'empereur !» Il médita de surprendre pour lui seul le secret de Modeste. Il suivit d'un air profondément soucieux ses patrons quand ils allèrent au chalet, car il s'agissait de dérober à tous ses yeux attentifs, à toutes ses oreilles tendues, le piège où il prendrait la jeune fille. Ce devait être un regard échangé, quelque tressaillement surpris, comme lorsqu'un chirurgien met le doigt sur une douleur cachée. Ce soir-là, Gobenheim ne vint pas. Butcha fut le partenaire de M. Dumay contre M. et Mme Letournelle. Pendant le moment où Modeste s'absenta vers 9 heures afin d'aller préparer le coucher de sa mère, Mme Mignon et ses amis purent causer à cœur ouvert. Mais le pauvre clerc, abattu par la conviction qu'il avait gagnée, lui aussi, parut étranger à ses ébats autant que la veille il avait été Gobenheim. « Eh bien, qu'as-tu donc, Butcha ? » s'écria Madame Latournelle étonnée. « On dirait que tu as perdu tous tes parents. » Une larme jaillit des yeux de l'enfant abandonné par un matelot suédois et dont la mère était morte de chagrin à l'hôpital. « N'est que vous au monde, répondit-il d'une voix troublée, et votre compassion est très religieuse pour que je la perde jamais, car jamais je ne mériterai vos bontés. » Cette réponse fit vibrer une corde également sensible chez les témoins de cette scène, celle de la délicatesse. « Mais nous ouvrons tous beaucoup, monsieur Mucha, dit madame Mignon d'une voix émue. « J'ai 600 000 francs à moi, dit le brave Dumay. Tu seras notaire au Havre et successeur de Latournelle. » L'Américaine, elle, l'avait pris et serré la main au pauvre bossu. « Vous avez 600 000 francs !» s'écria Latournelle, qui leva le nez sur Dumay dès que cette parole fut lâchée. « Et vous laissez ces dames ici. Et Modeste n'a pas un joli cheval. Elle n'a pas continué d'avoir des maîtres de musique, de peinture, de... Et il ne les a que depuis quelques heures, s'écria l'américaine. Chut, fit Madame Mignon. Et pendant toutes ces exclamations, l'auguste patronne de Butscha s'était posée. Elle le regardait. Mon enfant, dit-elle, je te crois entouré de tant d'affection que je ne pensais pas au sens spirituel de cette locution proverbiale, mais tu dois me remercier de cette petite faute, car elle a servi à te faire voir quels amis tes excuses qualités t'ont valu. Vous avez donc eu des nouvelles de Monsieur Mignon ? Dit le notaire. Il revient, dit Madame Mignon, mais gardons ce secret entre nous. Quand mon mari saura que Butscha nous a tenu compagnie, qui nous a montré l'amitié la plus vive et la plus désintéressée, quand tout le monde nous tournait le dos, il ne nous laissera pas le commander de manquandité à lui tout seul, Duvet. Non. Quand mon mari... Ça n'a pas de sens. Quand mon mari saura que Butscha nous a tenu compagnie, qui nous a montré l'amitié la plus vive et la plus désintéressée, et quand tout le monde nous tournait le dos, il ne nous laissera pas de le commanditer à vous seul, Dumais. Aussi, mon ami, dit-elle en essayant de diriger son visage vers Butscha, pouvez-vous dès à présent traiter avec la Tournelle ? Mais il a l'âge, 25 ans et demi, dit la Tournelle. Et pour moi, c'est acquitter une dette, mon garçon, que de te faciliter l'acquisition de mon étude. Butscha, qui baisait la main de Madame Mignon en l'arrosant de ses larmes, montra un visage mouillé quand Modeste ouvrit la porte du salon. « Mais qui donc a fait du chagrin à mon âme mystérieux ?» demanda-t-elle. « Mais, mademoiselle Modeste, pleurons-nous jamais de chagrin, nous autres enfants versés par le malheur ? On vient de me montrer autant d'attachement que je m'en sentais au cœur pour tous ceux en qui je me plaisais avoir des parents. Je serai notaire, je pourrai devenir riche. Ah ah ! Le pauvre Butscha sera peut-être un jour le riche Butscha. Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a d'audace chez cet avorton ? S'écria-t-il. Et le bossu se donna un violent coup de poing sur la caverne de sa poitrine et il posa devant la cheminée, après avoir jeté sur Modeste un regard qui glissa comme une lueur entre ses grosses paupières serrées. Car il aperçut, dans cet incident imprévu, la possibilité d'interroger le cœur de sa souveraine. Dumais crut pendant un moment que le clerc avait osé s'adresser à Modeste et échangea rapidement avec ses amis un coup d'œil bien compris par eux, et qui fit contempler le petit bossu dans une espèce de terreur mêlée de curiosité. « J'ai mes rêves aussi, moi !» reprit Butscha, dont les yeux ne quittaient pas Modeste. La jeune fille abaissa ses paupières par un mouvement qui fut déjà pour le clerc toute une révélation. « Vous aimez les romans ? Laissez-moi dans la joie où je suis !» Vous confiez mon secret, vous me direz si le dénouement du roman inventé par moi pour ma vie est possible. Autrement, à quoi bon la fortune ? Pour moi, l'or est le bonheur plus que pour tout autre, mais car pour moi, le bonheur sera d'enrichir un être aimé. Vous qui savez tant de choses, mademoiselle, dites-moi donc si l'on peut se faire aimer indépendamment de la forme, belle ou laide, ou pour son âme seulement ? Modeste leva les yeux sur Butscha. Ce fut une interrogation terrible, car alors Modeste partagea les soupçons de Dumais. Une fois riche, je chercherai quelque belle jeune fille pauvre, une abandonnée comme moi, qui aura bien souffert, qui sera malheureuse, je lui écrirai, je la consolerai, je serai son bon génie. Elle ira dans mon cœur, dans mon âme. Elle aura mes deux richesses à la fois, et mon or bien délicatement offert, et ma pensée parée de toutes les splendeurs que le hasard de la naissance a refusées à ma grotesque personne. Je resterai caché, comme une cause que les savants cherchent. Dieu n'est peut-être pas beau. Naturellement, cette enfant devenue curieuse voudra me voir, mais je lui dirai que je suis un monstre de laideur. Je me peindrai en lait. Là, Modeste regarda Butscha fixement. Elle lui eût dit, mais que savez-vous de mes amours? Elle n'aurait pas été plus explicite. Si j'ai le bonheur d'être aimé pour les poésies de mon cœur, oh, si quelque jour je ne parais être qu'un peu contrefait à cette femme, avouez, je serais plus heureux que le plus beau des hommes, qu'un homme de génie aimé par une créature si céleste que vous. La rougeur qui colora le visage de Modeste apprit au bossu presque tout le secret de la jeune fille. Eh bien, enrichir ce qu'on aime et lui plaire moralement, abstraction faite de la personne, est-ce le moyen d'être aimé? Voilà le rêve du pauvre bossu, le rêve d'hier. Car aujourd'hui, votre adorable mère vient de me donner la clé de mon futur trésor en promettant de me faciliter les moyens d'acheter une étude. Mais avant de devenir un Gobenheim, encore faut-il savoir si cette affreuse transformation est utile. Qu'en pensez-vous, mademoiselle, vous? Modeste était si surprise qu'elle ne s'aperçut pas que Butscha l'interpellait. Le piège de l'amoureux fut bien dressé, mieux dressé que celui du soldat, car la pauvre fille, stupéfaite, resta sans voix. Pauvre Butscha, dit tout bas Madame Latournelle à son mari, deviendrait-il fou? Vous voulez réaliser le conte de la Belle et la Bête, répondit enfin Modeste, et vous oubliez que la bête se change en prince charmant. Croyez-vous, dit le nain, moi j'ai toujours imaginé que ce changement indiquait le phénomène de l'âme au rendu visible, étreignant la forme sous sa radieuse lumière. Oh, si je ne suis pas aimé, je resterai caché, voilà tout. Vous et les vôtres, madame, dit-il à sa patronne. Au lieu d'avoir un nain à votre service, vous aurez une vie et une fortune. Butscha reprit sa place et dit aux trois joueurs en affectant le plus grand calme: Allez, à qui a donné? Mais en lui-même, il se disait douloureusement: elle veut être aimée pour elle-même. Elle correspond avec quelque faux grand homme, mais où en est-elle? Ma chère maman, 9h3 viennent de sonner, dit Modeste à sa mère. Madame Mignon fit ses adieux à ses amis et alla se coucher. Ceux qui veulent t'aimer en secret peuvent avoir pour espions des chiens, des Pyrénées, des mères, des Dumay, des Latournelle. Ils ne sont pas encore en danger. Mais un amoureux, c'est diamant contre diamant, feu contre feu, intelligence contre intelligence, une équation parfaite et dont les termes se pénètrent mutuellement. Le dimanche matin, Butscha devança sa patronne qui venait toujours chercher Modeste pour aller à la messe, et il se mit en croisière devant le chalet en attendant le facteur. Avez-vous une lettre aujourd'hui pour mademoiselle Modeste? Dit-il à cet humble fonctionnaire quand il le vit venir. Non, monsieur, non. Ah, nous sommes depuis quelque temps une fameuse pratique pour le gouvernement, s'écria le clerc. Ah, dame, oui, répondit le facteur. Modeste vit et entendit ce petit colloque de sa chambre, où elle se postait toujours à 7 heures derrière sa persienne pour guetter le facteur. Elle descendit, sortit dans le petit jardin, où elle appela d'une voix altérée: Monsieur Bouchard! Mais voilà, mademoiselle, dit le bossu en arrivant à la petite porte que Modeste ouvrit elle-même. Pourriez-vous me dire si vous comptez parmi vos titres à l'affection d'une femme le honteux espionnage auquel vous vous livrez? Lui demanda la jeune fille en essayant de terrasser son esclave sous ses regards et par une attitude de reine. Oui, mademoiselle, répondit-il fièrement. Oh, je ne croyais pas, reprit-il à voix basse, que les vermisseaux puissent rendre service aux étoiles. Mais il en est ainsi. Souhaiteriez-vous que votre mère, que Monsieur Dumay, que Madame Latournelle vous eussent deviné, et non un être quasi proscrit de la vie, qui se donne à vous comme une de ces fleurs que vous coupez pour vous en servir un moment. Ils savent tous que vous aimez, mais moi seul je sais comment. Prenez-moi comme vous prendriez un chien vigilant. Je vous obéirai, je vous garderai, je n'aboierai jamais, et je vous jugerai point. Je vous demande rien que de me laisser vous être bon à quelque chose. Votre père vous a mis un dumais dans votre ménagerie, ayez un bout de chat. Vous m'en direz des nouvelles, un pauvre bout de chat, qu'aucune ne veut rien, pas même un os. Eh bien, je vais vous prendre à l'essai, dit Modeste, qui voulut se défaire d'un gardien si spirituel. Allez sur le champ, d'hôtel en hôtel, à Graveville, au Havre, savoir s'il est venu d'Angleterre, monsieur Arthur. Écoutez, mademoiselle, dit Butcha respectueusement, en interrompant Modeste, j'irai tout bonnement me promener au bord de la mer, et cela suffira. Car vous ne voulez pas aujourd'hui aller à l'église, voilà tout. Modeste regarda le nain en laissant voir un étonnement stupide. « Écoutez, mademoiselle, pour que vous soyez entortillé les joues d'un foulard et de ouate, vous n'avez pas de fluxion. Et si vous avez un double voile à votre chapeau, c'est pour voir sans être vu. »« Mais d'où vous vient tant de pénétration ?» s'écria Modeste en rougissant. « Eh, mademoiselle, vous n'avez pas de corset. » Une fluxion ne vous obligeait pas à vous déguiser la taille, en mettant plusieurs jupons, cachez vos mains sous de vieux gants, et vos jolis pieds dans d'affreuses bottines, à vous mal habiller, à... Ah, assez, dit-elle. Maintenant, comment serais-je certaine d'avoir été obéie ? Mais mon patron veut aller à cette adresse, il en est contrarié, mais comme il est vraiment bon, il n'a pas voulu me priver de mon dimanche, eh bien... je lui proposerai d'y aller. Bien, allez-y, j'aurai confiance en vous. Mais êtes-vous sûr de ne pas avoir besoin de moi au Havre ? Non, 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 écoutez, nain mystérieux, regardez, dit-elle, en lui montrant le temps sans nuage. Voyez-vous la trace de l'oiseau qui passait tout à l'heure ? Eh bien, mes actions, pures comme l'air est pur, n'en laissent pas davantage. « Rassurez Dumais, rassurez les Latournelle, rassurez ma mère, et sachez que cette main, dit-elle en lui montrant une jolie main fine aux doigts retroussés et que le jour traversa, ne sera point accordée, elle ne sera pas même animée d'un baiser avant le retour de mon père par ce qu'on appelle un amant. Et pourquoi ne me voulez-vous pas à l'église aujourd'hui ? Oh, vous me questionnez ? Après ce que je vous ai fait l'honneur de vous dire et de vous demander. » Butcha salua sans rien répondre et courut chez son patron dans le ravissement d'entrer au service de sa maîtresse anonyme. Une heure après, M. et Mme Latournelle vinrent chercher Modeste qui se plaignit d'un horrible mal de tête. « Bon, j'ai pas eu, dit-elle, le courage de m'habiller. » « Eh bien, restez, dit la pauvre bonne notaresse. « Oh non, non, je veux prier pour l'heureux retour de mon père, » répondit Modeste. « J'ai pensé qu'en m'étouflant ainsi, ma sortie me ferait plus de bien que de mal. » Et Mademoiselle Mignon alla seule à côté de Latournelle. Elle refusa de donner le bras à son chaperon dans la crainte d'être questionnée sur le tremblement intérieur qui l'agitait, à la pensée de voir bientôt son grand poète. Un seul regard, le premier, n'allait-il pas décider de son avenir ?